L'éperon d'argent. Extrait. Paul Vialard. Chapitre 1. Le train était si long que le wagon de troisième, où Flavien se trouvait avec sa grand-mère, s'arrêta en dehors des bâtiments de la gare, à un endroit où le quai finissait. Il se pencha par la portière dont il avait baissé la vitre. Était-il bien arrivé ? La voix d'un homme d'équipe, là-bas, dans le silence revenu, clamait sur un ton monocorde. « Chantilly ! Chantilly !»« Vite, grand-mère !» dit Flavien. « Cette fois, nous y sommes !» Une fièvre qu'il ne cachait pas le tenait, comme s'il avait craint que le train ne repartît avant qu'ils aient pu descendre. « Les paquets ! Passe-les-moi !» Il avait sauté à terre, dans l'herbe. Et cela lui avait paru de très haut, car Flavien était de courte taille et n'avait encore que 13 ans. Déjà, la vieille, penchée vers lui, hésitante, lui jetait le cabas, le carton qui portait, en anglaise, le nom d'un magasin de Pont Audemer et dans lequel elle avait rangé les affaires du petit. À présent, elle regardait le sol. Devant elle, au bas de ses trois marches étroites, comme s'il s'était agi de se jeter d'un étage au cours d'un incendie. Sa coiffe normande, toute blanche, s'inclinait en avant. « Saute !»« Je pourrai jamais !»« Je vais te recevoir !» Elle ferma les yeux, se lança en avant. Elle ne pouvait tout de même pas demeurer dans ce train dont la locomotive sifflait. Flavien tenait ferme sur ses petits mollets. Il avait de bons muscles, pourtant le poids de la vieille l'emporta et tous deux roulèrent sur le sol. Il la releva d'abord. « T'as pas de mal ?» Elle ne savait pas. Elle se secouait. Elle était vieille et tout cela, ce voyage, ces changements, cette chute, enfin, ce n'était pas des choses de son âge. Et elle demeurait là, grommelante et furieuse. Lui, le petit gars, avec un grand sérieux, il rassemblait les objets épars, les remettait dans le cabas, frottait du revers de sa main la jupe noire de la vieille pour en faire tomber la poussière. Derrière eux, le train repartait. Ils furent tout seuls. La gare était là-bas, avec son quai déjà vide de voyageurs. Il prit la grand-mère par le bras, car elle tournait sur elle-même comme sans direction, un peu ivre de tout ce qui lui était arrivé depuis la veille. « Allons, viens !» « C'est par là !» Le portillon passé, ils se trouvèrent sur une place. Elle était déserte à cette heure, et déserte également les terrasses des cafés, où s'alignaient les chaises fraîchement repeintes et les guéridons essuyés. On n'entendait que le bruit des sabots d'un cheval qui entraînait vers la ville quelques voitures de place, une Victoria découverte. Ce bruit qu'il aimait fit du bien à Flavien. Ce fut un peu comme s'il ne débarquait pas en pays inconnu. Il posa ses paquets sur le sol, sortit de sa poche une carte de visite imprimée. Il savait par cœur ce qui y était écrit, mais il éprouvait le besoin de l'avoir, une fois encore, devant les yeux. « Monsieur Brixton, La Côte, La Morlaix, Oise. » Et au crayon d'une main maladroite, il y avait aussi « En sortant de la gare, passer sous le pont du chemin de fer, suivre la grande route qui monte, avant la descente sur la Morlaix à la fin de la forêt, le chemin à droite, celui d'où l'on a la vue. « Tu devrais demander, » dit la vieille. « Non ?» dit Flavien. C'était inutile, en effet, et il savait où il allait. C'était lui qui l'entraînait, la guidait, alors qu'elle avait cru devoir faire avec lui ce voyage, voulu l'accompagner. Le moment était venu de se séparer de lui. Peut-être avait-elle seulement désiré le retarder encore un peu. Il la prit par le bras avec autorité. Instinctivement, elle se mit à son pas. Dans la direction où ils allaient, on sortait presque aussitôt de la ville. Une allée ombreuse menait là-bas, sur la gauche, à un espace libre, ensoleillé. Un panneau indiquait que c'était le champ de course. Puis, la voûte sous le chemin de fer, une fois traversée, la route droite montait à l'assaut d'une colline, fendait en deux un bois épais, profond, alors qu'on laissait derrière soi les dernières villas. À droite, un bâtiment fait de deux ailes et dont la grille était surmontée du mot « hôpital », sur le seuil duquel des hommes tout petits comme Flavien, qui sans doute étaient des jockeys blessés, le bras en écharpe ou s'appuyant sur une canne, se chauffaient au soleil. Très vite, et quoi qu'on marchât sur la route nationale, on arrivait au cœur de la forêt. À droite, encore, cependant, à travers les frondaisons, derrière une grille peinte en gris, s'étendait une immense clairière cernée d'arbres, dont le sol était de gazon. Un écriteau disait « Terrain d'entraînement des aigles interdit au public ». On n'y voyait personne, car la journée tirait à sa fin. Le soleil de juin, encore haut, chauffait les épaules de la vieille et Flavien en sentait la chaleur à travers le drap noir de sa veste. Celle de l'unique costume qui fut à lui, celui qu'il avait porté pour l'enterrement de ses parents et qui déjà, quoiqu'il ne grandît guère, on disait toujours au pays qu'il serait sans doute, le moment venu, le plus petit conscrit de France, avait des manches trop courtes et une culotte trop haute sur la tige du gros soulier à clous. « C'est encore loin ?» demanda la vieille. « Là-bas, » dit Flavien, et il désignait l'endroit où la route, devant eux, rejoignait le ciel avant de replonger dans la vallée. Ils marchèrent un instant en silence. La vieille ruminait ses pensées. Elle dit avec un soupir, qui était presque une plainte, « Je vais être bien seule. » Elle revoyait sa petite maison de Garville au centre du village où elle s'était retirée, veuve, lorsqu'elle avait laissé la ferme des Traits à son fils, le père de celui qui, à cet instant, lui tenait le bras. C'était au moment où ils s'étaient mariés. Tout de suite, elle avait mal vu cette union. Cette brune ne lui disait rien qui vaille, mais en aurait-il été différemment pour une autre et lui eût-elle montré moins de jalousie? Pourtant, elle avait triomphé lorsque Fernand, après 9 années, était venu la trouver, lui avait tout avoué. Béatrice, quel nom pour une campagnarde, n'avait plus que peu de jours à vivre. Le médecin disait qu'elle ne quitterait plus son lit. C'était sa poitrine qui était atteinte à cette belle fille. Cela, lui, Fernand, il le savait depuis longtemps déjà. Et c'était la raison pour laquelle il ne lui avait rien refusé, avait dépensé tant d'argent pour sa coquetterie, hypothéqué la ferme et les herbages. Il l'admettait, mais que lui importait, puisqu'il allait la perdre. La vieille n'avait pas grondé, pensant qu'il y avait encore quelque chose à sauver, que la bru partie, le gars se reprendrait, reconquerrait son petit domaine, 50 ans d'économie et de labeur, sur les notaires, les prêteurs et les hommes de loi. Elle avait pris chez elle le petit Flavien. La mort d'une mère n'est pas un spectacle pour un enfant. Ça avait été là un bon prétexte. Peut-être que la grand-mère devinait-elle qu'il lui faudrait bientôt quelqu'un, celui-là qui lui appartenait tout autant puisqu'il était de son sang, pour tenir la place qu'allait déserter son fils. Et Béatrice était morte. Alors, Fernand s'était mis à boire. On ne le voyait plus qu'au cabaret, cuvant son vin dans les fossés. Combien elle s'était alors félicitée d'avoir soustrait le petit Flavien à une telle existence. 6 mois ne s'étaient pas écoulés que le gars Fernand, roulant sous son char, avait été écrasé par le lourd véhicule, sans qu'il eût même essayé de se relever. Les comptes faits, il ne restait rien à Flavien et à la vieille, seulement la petite maison dans le bourg où elle s'était retirée lorsqu'elle avait laissé les Traits à son fils. Elle y avait de son mieux élever le petit, tantôt tendre, tantôt rude selon son humeur, car elle avait le cœur aigri. Elle l'adorait, ayant reporté sur lui tout ce qui lui restait d'amour, le trouvant le plus beau de tous les enfants du village et pourtant souffrant de le voir subir les railleries des autres sur sa petite taille, comme si elle s'était adressée à elle-même. Elle n'avait jamais été grande, elle, mais elle était une femme, et lui, bientôt, serait un homme. Flavien était un bon enfant, appliqué, sérieux, presque grave, sans doute à cause de tous ces malheurs qui s'étaient abattus sur lui alors qu'il était encore si jeune. Il gardait le souvenir d'une mère alanguie, étendue dans un lit aux draps brodés et qui lui avait laissé d'elle une image ravissante. Un père, il ne l'avait plus qu'à peine entrevu après la mort de Béatrice, dont la main puissante était légère à sa petite épaule, l'odeur franche lorsque l'enfant sautait sur ses genoux, cette bonne odeur faite du parfum chaud des bêtes, de la tiédeur des écuries. Il ne lui restait plus rien de tout cela que cette vieille qu'il respectait et qui l'aimait pour tout ce dévouement qu'elle lui montrait, mais qui ronchonnait, ordonnait, décidait, était physiquement sèche et ridée, brusque, tantôt l'embrassant trop, tantôt le repoussant, et qui se lamentait toujours, faisait le procès du passé, de sa gourgandine de mère, de son ivrogne de père qui n'avait réussi qu'à les mettre sur la paille. Elle exigeait que, revenu de l'école où il travaillait bien, il demeurât auprès d'elle, ne rejoignît pas les autres gamins dans la rue. La présence du petit, sa liberté, était son bien propre. Et elle n'eut point admis que d'autres qu'elle, et lui-même surtout, en profitassent. Flavien n'était pas malheureux, mais il n'avait qu'un seul moment de bonheur véritable. C'était le soir, quand il allait chercher le lait. Il s'y rendait vers 6 heures, après la traite, à la ferme Saint-Pierre. Et pour cela, il lui fallait sortir du village, descendre le long de la rivière qu'il suivait un instant, cette lente et calme sève qui serpentait dans les prairies. Il la quittait bientôt, d'abord pour ne pas rencontrer les autres, garçons et filles, qui revenaient leurs boîtes de métal pleines et se moquaient de ce trop petit bonhomme couvé sous les jupes d'une vieille, mais surtout pour remonter vers les pacages, pour longer les clos où, entre les clôtures, libre, hennissant, s'ébattaient les étalons fiers qu'ils connaissaient tous par leur nom, les poulinières rondes, suivies de leurs foals barbus, les deux engalopeurs, dont les sabots, dans leur course, lançaient vers le ciel des mottes de terre brune ou de gazon vert amande. Quoique ce fût un détour, Flavien, à l'aller comme au retour, longeait les prés du haras de la Croix-Saint-Pierre. Il vivait toute sa journée pour en arriver à 7 heures. Longuement, il s'accoudait aux barrières et là, il se mettait à parler aux animaux. Il s'approchait alors, même les plus difficiles, même les plus fous, et appuyant leur longue tête sur la barre supérieure, il se laissait caresser le front, gratter longuement derrière l'oreille et prenait doucement dans sa paume, retroussant leurs lèvres plates sur leurs dents jaunes, les pommes que pour eux il avait ramassé dans les vergers à la sauvette et dont il avait bourré les poches de sa culotte d'écolier. « Tu es encore bien tard, Flavien. »«
J'ai attendu, grand-mère, la traite était point terminée. »
C'était le seul cas où il consentit à mentir, car il avait le goût de l'honnêteté et de la vérité. Quand il eut passé son certificat d'études, il fallut bien songer à ce qu'on allait faire de Flavien. La vieille eut fort bien admis qu'il demeurât chez elle, la servant et lui tenant compagnie. Certes, elle n'avait guère d'argent, mais assez cependant pour que, chichement, il pût vivre. Elle avait conservé 2 prés, tout son avoir, vers Saint-Pierre, et les louait au monsieur du haras pour la somme de 900 francs par an. Cela faisait 75 francs par mois, qui, joint au peu qu'elle avait conservé par devers elle, permettait de subsister en cette année 1912. On n'est point malheureux, nous autres, puisque l'on a, pour vivre, la moitié de ce que gagne monsieur le chef de gare. Le curé, l'instituteur, lui disait bien lorsqu'il la rencontrait, « Vous pensez à Flavien ? Il vous faudra tout de même bien un de ces jours l'établir. »«
J'y songe, » disait-elle, « mais il est si petit,
et c'était vrai,
qu'on a bien tout le temps devant nous. »
Petit, il l'était, quoique ses parents eussent sans avoir été grands et étaient de taille normale. Il le demeurerait sans doute, mais il était solide, râblé, parfaitement proportionné et d'une santé de fer. Et il savait ce qu'il voulait. Il mesurait tout ce qu'il devait à la grand-mère, mais ce ne pouvait être une vie que de rester ainsi dans ses jupes.
Il se voyait indépendant et libre, gagnant de l'argent et lui envoyant. Car il lui devait bien ça, adoucissant ses dernières années. Il savait bien qu'elle se privait en disant qu'elle n'avait pas faim pour lui laisser à lui seul le beefsteak de 50 centimes, se bourrant de pain longuement trempé dans le lait, ce qui était souvent tout son dîner. Mais depuis bientôt un an, il avait son secret. Un jour, qu'appuyé à la barrière du clos des Naudins, il frottait sa joue contre la tête d'un alezan, une voix l'avait fait sursauter.
« Prends garde, gamin, c'est un méchant, il mord !»
Il s'était retourné et avait vu dans le sentier un homme qu'il avait déjà aperçu et dont, au village, on prononçait le nom avec respect. Il était vêtu d'une veste à carreaux dans l'échancrure de laquelle se nouait une cravate blanche, rehaussée d'une épingle dorée qui figurait un fer à cheval. Il portait des culottes de monte. Sa main jouait négligemment avec une cravache et frappait le cuir de ses leggings serrés sur ses mollets trapus.
« Pas de danger, monsieur Talleret, il me connaît. »«
Tu sais mon nom, toi ?»«
Bien sûr. »
Ni le cheval ni l'enfant ne s'étaient effarouchés à son approche. Le petit continuait à promener sa main sur le front, les naseaux de la bête. Celle-ci, même, comme pour faire mentir Talleret, sortit sa langue rose. Et tout doucement, l'allécha.
T'es bien le premier qui peut faire ça à Glamorgan.
Mais Flavien ne répondait pas. Il disait « Les rudement beaux, et quel sang ! L'arrière-main est solide, mais faut voir la poitrine, c'est large et ça doit respirer. Je l'ai vu courir aussi. C'est lui qui a la plus longue foulée de tous, même plus étendue que celle de Prince Bleu. Dommage qu'il boive dans son blanc. » En disant cela, sa main caressante se promenait sur la tache rose qui descendait du front jusqu'aux lèvres de l'animal.
« Dis donc, tu t'y connais ?»
fit Talleret amusé.
« J'aime ça, les chevaux, »
dit Flavien d'une voix sourde où couvait une sorte de passion. Mais Talleret se reprenait.
« Les purs sens n'est pas fait pour être mignoté. Ce n'est ni des demoiselles, ni des chiffres. Et puis, t'as tortifié. » Un jour, un cheval comme Glamorgan se dressera tout debout et il te retombera sur la tête, les sabots de devant réunis.
« Pas avec moi, monsieur Talleret !»
Et Flavien continuait à passer ses doigts sur la tête dure, au poil ras. Le cheval calmement penchait cette tête vers la main, s'y appuyait, confiant, abandonné.
« J'aimerais tout de même mieux que tu ne tripotes pas mes bêtes. Il ne faut pas me les effaroucher. »
Mais il savait bien que ce qu'il disait là, c'était pour la forme, qu'une main, qu'une voix comme celle de ce petit que Glamorgan laissait approcher ne pouvait effrayer aucun cheval.
« C'est bon, » reprit-il, volontairement bourru. « Ça passe aujourd'hui, mais que je ne te voie pas tout le temps rôder alentour. »«
Je pourrais pas revenir alors ?»
Une telle détresse passait dans les paroles, dans le regard de Flavien, que Talleret en fut touché.
« Si, bien sûr, le chemin est à tout le monde, mais s'il y avait un accident, c'est moi qui serais responsable. Ah, tu comprends ?»
Flavien ne comprenait qu'une chose, c'est que Monsieur Talleret, l'homme qui dirigeait l'élevage du haras, une manière de Dieu, c'était certain, ne le chassait pas tout à fait.
« Oh, merci, monsieur Talleret, merci !»
Talleret s'éloigna. Il sentait que le petit, reconnaissant, lui aurait comme rien baisé la main, cette main rude qui avait d'abord tenu la fourche avant de mener les chevaux. Et cela, il ne le voulait pas. Ensuite, très vite, ils étaient devenus amis. Devant lui, peu à peu, Talleret s'était laissé aller à parler tout haut, lui le taciturne. Il sentait tant d'attention, tant d'amour chez l'enfant, qu'il s'en était humanisé. Il disait
« Viens voir les deux ans avec moi, il va falloir bientôt les séparer. Les pouliches se tiennent tranquilles, mais les mâles commencent à chercher des querelles. On va les envoyer bientôt à Chantilly, les mettre à l'entraînement chez Brixton. »
Il frappait dans ses mains, et la tête, soudain dressée, les jeunes chevaux détalaient de leur foulée souple et folle, cambrant les reins, ramassant leurs sabots.
« Lequel préfères-tu ?
Le Bébrin, monsieur Tallery, ça c'est un cheval. Il est encore comme un jeune chien avec des membres trop longs, mais regardez son allonge, c'est la qualité vraie.
Tu sens bien, disait Tallery. On ne peut encore rien dire à cet âge-là, mais les indices sont bons. Et puis ça, un fils de Félicité et ton ami Glamorgan.
Un jour, près du bâtiment du Hara, il aperçut Tallery qui portait une selle légère.
« Viens !» dit celui-ci.
Muet, l'enfant le suivit, l'écoutant.
« C'était point la coutume jusqu'à présent, mais c'est une idée à moi. Les 2 ans, on les envoyait tout droit chez Brixton. Et là-bas, qu'ils se débrouillent.
Moi, je veux les accoutumer ici. On abîmera moins de chevaux et on fera moins de rossards. Non pas que je veuille qu'on les monte, mais qu'ils s'habituent à l'homme, à son poids, à ses genoux, à sa main. Viens jusqu'à l'écurie. »
C'était la première fois que Flavien pénétrait dans la vaste cour qu'entouraient les box, et la bonne odeur poivrée du crottin l'y accueillit. Tout lui paraissait extraordinaire et nouveau.
L'avoine du soir était donnée et les chevaux rentraient. Les garçons finissaient de balayer le pavé avec leurs balais de bruyère.
Tallery, le précédent, ils entrèrent dans l'un des box.
Oh, là, l'enturlu!
Tallery lui flattait l'encolure, le chanfrein, lui tendait son licol décroché au dehors, à la porte que la bête mordillait, s'amusant.
C'est demain matin que j'avais projeté de faire ça, mais puisque je t'ai sous la main ce soir, je vais me servir de toi.
Mes garçons sont trop lourds.
Mets ta boîte à lait, là, dans un coin.
Tu n'as pas peur ?
Ce n'était pas une question à poser à Flavien. Et s'il tremblait, c'était de joie, d'excitation.
Non ? Bien sûr, monsieur Tallery.
Approche. Le cheval te connaît ?
Je crois. Je lui ai parlé parfois.
Hé, l'enturlu !
L'animal, qui mordillait toujours la courroie, tournait la tête vers le gamin, sans dresser les oreilles. Son œil rouge regardait, il ne paraissait pas étonné.
Tallery posait la selle près de l'entrée.
Le cheval, libéré un moment, penchait la tête vers le petit. Celui-ci lui caressait l'épaule.
« Je vois que vous êtes des amis. À présent, tu vas essayer, on va voir comment tu t'y prends. Personne n'est jamais monté sur son dos. »
Flavien s'approchait tout contre l'animal. Il sentait sa chaleur, le frémissement de toute sa peau. Il demeura là un moment, immobile. Très bas, il dit enfin « Dans un instant, vous me tendrez vos mains en étrier, monsieur Tallery. » Et tout doucement, je monterai sur lui.
Tallery s'approcha, se prépara, poings réunis. En même temps, Flavien parlait à l'enturlu. Il le faisait avec douceur, avec une sorte de camaraderie.
« Eh bien, mon lenturlu, la vie est belle, n'est-ce pas ? Et bientôt, toi qui galopes si bien, tu vas en courir des vraies courses. Mais cela, tu ne peux pas le faire tout seul, hein ? Mon gros, mon bello, mon petit frère, il faut que tu aies un bonhomme sur ton dos. Et si c'était moi, ce bonhomme, qu'est-ce que tu dirais, lenturlu ?
Ça ne serait-il pas mieux que n'importe lequel ?
D'abord, je ne suis pas lourd, et puis moi, je te connais. Je t'ai vu tout petit, quand tu étais avec ta maman dans le clos des 3 chênes. Alors, laisse-toi faire, mon gros, mon bello, mon lenturlu, laisse-toi faire. »
Doucement, il se hissait, appuyé du pied sur les mains jointes de Tallery, le long de la jambe, de l'encolure. Il avait à présent sa tête à la hauteur de celle du cheval, comme s'il s'était haussé jusqu'à elle pour lui mieux parler à l'oreille.
« La selle ?» fit Tallery.
« Non, » dit le petit d'une voix sourde.
« Il sent ma peau contre la sienne, c'est ça qu'il faut. Il va se laisser faire. »
Doucement, lentement, il se hissait, aidé par les mains de Tallery. Un moment très long, il demeura penché sur l'encolure. Parlant, toujours, puis, insensiblement, il passa sa petite jambe par-dessus le cheval, s'assit sur son dos lentement. L'enturlu n'avait pas bougé. Flavien restait là un instant, muet, immobile. Puis il dit « Ouvrez la porte, monsieur Tallery. »
« Non, » dit Tallery. «
Il n'a pas de licole. Aussitôt dehors, il va partir et tu ne tiendras pas dessus, même si tu sais bien monter à cheval. »
Je n'en ai jamais conduit un.
Alors tu es fou.
Ouvrez, répéta le petit, obstiné. Il faut aller jusqu'au bout. Rester à sa tête 10 pas suffiront, puis vous le dirigerez de nouveau vers le box. Mais il faut qu'il ait marché avec l'homme sur son dos.
Quand il racontait l'histoire, Talleyrand disait qu'il connaissait les risques que représentait l'expérience et ne comprenait pas encore pourquoi il avait ouvert. Il le fit. Pourtant, il l'enturlut, comme s'il n'avait porté aucun fardeau, bien plus, comme s'il avait compris qu'il avait sur son dos un enfant et un maître, fit au dehors quelques pas précautionneux.
« Par ici, l'enturlut, » disait Flavien de sa voix douce.
Et le jeune cheval, plein de sang et de folie dans la prairie, obéissait. Il rentra calmement dans le box. Avec la même lenteur, Flavien redescendit de son dos. Un moment encore, il le flatta, puis il se détacha de lui. Il n'avait pas eu peur. Il s'était senti là, au bout de peu de temps, comme une autre partie de l'animal. Une étonnante correspondance s'était établie entre deux, et Talleyrand, étonné, en avait été aussitôt averti.
« Ça va rudement, les chevaux et toi. »
Il regardait le petit bonhomme. Celui-ci était rouge, autant de joie que d'avoir osé.
« On se comprend, » dit-il.
« Tu n'étais vraiment jamais monté sur aucun ?»«
Jamais dehors. Seulement chez mon père, quand j'étais petit, j'entrais dans l'écurie et là,
fit-il avec une étrange ferveur. Je grimpais sans qu'on le sache sur les deux percherons, même qu'après il s'approchait de la séparation où je mettais les pieds dans les encoches pour que ça me soit plus facile.
« C'est un métier que tu devrais faire, » dit Talleyrand.
« Ah, je voudrais bien !» Alors, Flavien lui avait tout raconté. Comment la grand-mère le gardait et ne voudrait pas le laisser, la quitter. Si Monsieur Talleyrand lui parlait, prenez Flavien ici, peut-être qu'elle accepterait.
« Non. » avait dit Talleyrand. « Tu dois faire mieux qu'un garçon d'écurie.
C'est ailleurs qu'il faut que tu ailles. À Chantilly, par exemple. Brixton a besoin d'apprentis. Là, tu monterais, tu pourrais devenir un véritable homme de cheval. C'est ce que j'ai fait, moi, avant de venir m'installer ici. »«
Elle voudra pas, » dit Flavien, près des larmes.
Elle voulut. Il le fallut bien. Ce ne fut pas sans mal, et Talleyrand dut employer les grands moyens. D'abord, il lui parla vocation, ce qui la laissa indifférente. Elle ne voyait qu'une chose, c'était que Flavien lui avait désobéi. Elle ne pouvait comprendre qu'une chose, on voulait lui enlever le petit. Butée, elle répétait
« Non, non, il partira pas.
Vos prés, ils ne me sont plus d'aucun intérêt, c'est ce que j'étais venue vous dire. Moi seule peux vous les louer à ce prix-là. » Et il le valait tant que j'avais l'emploi, et surtout parce qu'ils sont attenants à mes clos. Mais on m'en propose d'autres, à l'ouest, et de meilleurs. Je ne renouvellerai pas dans 3 mois. Si Talleyrand n'en voulait plus, elle ne les louerait à personne, ou seulement très mal. Ils étaient commandés par les autres pièces du haras, trop loin des autres fermes, pour qu'on y menât les bêtes, à moins d'y construire une cabane d'abri. Et pour cela, il faudrait perdre une année de loyer, au moins, sinon 2.
« Vous ne voulez plus de mes clos, monsieur Talleyrand ?»«
Je vous dis que j'en ai plus l'emploi.
Bah, »« Alors de quoi je vais vivre ?»«
Flavien travaillera. Il est temps qu'il gagne son pain. Ma proposition tient toujours. Brixton, que j'ai prévenu, l'attend à Chantilly. »«
Non !» avait-elle encore dit pendant un bout de temps.
Mais quand elle avait vu que Talleyrand tenait bon, que le notaire ne lui versait pas l'argent, qu'elle avait en vain cherché un autre locataire, il avait bien fallu qu'elle cédât. Allons, on lui prenait le petit, et elle allait être toute seule. Elle ne se faisait pas à cette idée. Elle savait bien qu'elle pleurerait tous les soirs, qu'elle ne vivrait plus très longtemps. C'était ainsi, et quoique le voyage coûta cher, qu'elle avait voulu venir jusqu'à Chantilly, comme si cela avait été de quelque utilité. peut-être, ressentait-elle inconsciemment qu'il lui fallait connaître les lieux où serait Flavien pour se représenter sa vie. Pour ne pas, elle était si vieille, voir sa silhouette se fondre dans le passé, l'oublier tout à fait. Ils arrivaient en haut de la montée. Un calme étrange, celui du silence bruissant de la forêt de juin, les entourait. Ils ne parlaient plus. Ils savaient que l'instant approchait, comme l'indiquait la carte de Brixton sur laquelle Talray avait écrit au crayon l'itinéraire. Flavien prit à droite. Le chemin, presque une route, mais où s'imprimaient dans le sol d'innombrables traces de sabots, suivait la côte, la colline, et à travers les derniers arbres, on découvrait, en contrebas, une plaine, un paysage piqué de verdure, cerné au loin de bois, d'arbres, une vallée où sinuait une rivière. Il y avait à gauche une maison, puis une autre encore, séparée du chemin par une haie, une barrière, des villas sans doute, car elles avaient bel aspect. Il fallait continuer, car ce n'était pas là. Et brusquement, après qu'ils eussent marché encore quelques centaines de mètres, Flavien aperçut un quadrilatère de bâtiments, et il sut qu'ils étaient arrivés. Ils s'approchèrent d'une entrée par laquelle on découvrait une large cour, entourée de boxes sur trois côtés, avec, au fond, une maison, une vue sur la vallée tout entière. Des garçons en bras de chemise ou vêtus de longues blouses grises s'affairaient, portant des seaux guétrés de jambière. Au milieu, un homme court, rouge de teint, au menton en galoche, paraissait surveiller toutes ces allées et venues. Une cravache à la main, il indiquait, donnait des ordres d'une voix rude et dans une langue que Flavien ne comprenait pas. La haute grille était fermée et le petit, suivi de la vieille, s'en approcha. Comme on ne paraissait pas faire attention à eux, Flavien avisa une corde qui pendait et actionna une cloche qu'on voyait au-dessus de la porte. Il tira et trois coups de battant résonnèrent sur le bronze. Alors, l'homme se retourna. Un instant, son front demeura crispé. Il fit quelques pas vers les arrivants. « Vous désirez ?» fit-il avec un fort accent anglais. « Monsieur Brixton ?»«
C'est moi, » dit-il. « Monsieur Talray m'envoie. »«
Je vous attendais, » dit l'homme, et il ouvrit la porte pour les laisser entrer.